Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous allons poursuivre notre série ce matin sur l'étude de la question charismatique. Et les choses sont devenues quelque peu intéressantes au cours des dernières semaines. J'ai reçu des courriers issus de tout le pays. Et les gens disaient « Priez pour moi ». Et j'apprécie beaucoup cela. J'ai reçu une lettre cette semaine d'un homme qui a dit que j'avais tellement convaincu sa femme de la vérité de ceci, que cela a occasionné une grande division dans leur foyer, ce qui n'était pas mon intention. Mais il m'a écrit pour me demander si je voulais partager un autre échange avec lui. J'ai reçu du courrier de personnes qui ont semblé d'un grand soutien, mais également de personnes qui étaient très en colère. Cependant, nous continuons de faire ce que nous ressentons que Dieu voudrait que nous fassions, en travaillant à travers les Écritures par rapport à ce mouvement, afin de mieux le comprendre. C'était intéressant cette semaine au séminaire auquel je me suis rendu, tout au long de la semaine, enseignant et parlant et donnant les cours et tout. Il m'a été demandé d'enseigner une session à ce sujet, et de passer en revue le matériel de manière générale pour la faculté et les étudiants. Et je l'ai fait, et j'étais intéressé de me rendre compte que la réponse était très positive, et que la pensée de plusieurs de ces hommes de Dieu allait exactement dans le même sens, ce qui m'a rassuré et m'a encouragé à foncer tout droit et à continuer de faire ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous arrivons donc au message numéro 5. Nous repartons de là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Nous parlions de l'introduction du livre « Pourquoi devrais-je parler en langue ?» de Charles et France Hunter. Et je vous disais qu'ils avaient fait cette affirmation dans leur introduction, que je vais répéter. Je cite « Au XXe siècle, nous n'avons pas à nous contenter de quoi que ce soit de moins que ce que les disciples ont eu. Dieu déverse son esprit exactement de la même manière aujourd'hui qu'il l'a fait alors. Il n'y a aucune différence. » Fin de citation. Maintenant, cela ne constitue pas uniquement la déclaration des Hunter. C'est une des doctrines cardinales du mouvement charismatique. Ils affirment constamment qu'il n'y a aucune différence aujourd'hui avec la manière dont l'Esprit de Dieu opérait à l'époque des apôtres. C'est très indispensable pour eux qu'il y ait une similitude. C'est absolument le fait fondamental et l'argument ultime d'une personne pentecôtiste que ce qu'elle lit dans le Nouveau Testament se produise également dans la vie aujourd'hui. Et pour essayer de soutenir cela, ils utilisent invariablement l'unique écriture qu'ils doivent retenir. Et il s'agit d'Hébreux 13, verset 8. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, déclare « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et à partir de ce verset, ils affirment que Dieu agit aujourd'hui de la même manière qu'il a opéré jadis. Mais bien sûr, comme nous l'avons brièvement remarqué la semaine dernière, ce verset ne peut pas soutenir cette affirmation. Le verset n'a absolument rien à voir avec ce que Jésus fait. Il traite plutôt de qui il est. Il s'agit d'une formidable affirmation sur l'immutabilité, le caractère inchangeable, l'absolue constance, la divinité éternelle de Jésus-Christ. Le verset ne dit absolument rien sur la manière dont Dieu pourrait choisir d'agir, qui est varié, comme le sait n'importe quel étudiant de la Bible. À un moment, Dieu a travaillé avec l'homme comme roi de la terre avant la chute. Après la chute, Dieu a opéré à travers la conscience. Et puis Dieu a établi le gouvernement. Et puis Dieu a agi à travers la loi. Et fréquemment, Dieu a exercé son règne à travers les juges, et quelquefois à travers les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Diverses choses. Dans le Nouveau Testament, Dieu a exercé sa domination sur terre, à travers l'incarnation de Jésus-Christ, qui a vécu sur terre. Dans cette ère, c'est à travers le Saint-Esprit et la vie du croyant. Dans l'ère à venir, ce sera à travers le roi qui règne sur le trône du royaume. Dieu a eu plusieurs manières de régner, plusieurs dispensations, comme on les appelle, dans lesquelles Dieu a agi dans le monde de manière unique, propre à cette ère particulière et à cette époque particulière. À une époque, Christ était l'ange de l'Éternel. À une autre, il était le serviteur souffrant incarné. Dans le futur, il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il n'y a donc pas de constance dans la manière dont Dieu agit, mais il y en a dans le caractère de Dieu. Et c'est ce que dit Hébreux 13 au verset 8, en affirmant que Jésus-Christ est l'exemple parfait du leader. Il ne change jamais. Il peut être suivi sans la moindre peur d'échouer. Et c'est cela le message d'Hébreux 13, parce que Hébreux 13 essaie de dire « Suivez ceux qui exercent une autorité sur vous » au verset 7, et en parfait modèle de celui qui donne l'exemple à l'exemple, regardez à Jésus-Christ, que vous pouvez suivre sans crainte, qu'il ne dévie jamais de la vérité. Dans la section sportive du Los Angeles Times, ce matin, je parcourais rapidement un article rédigé par un nouveau membre des Anges de Los Angeles, anciennement les Anges de la Californie, une équipe de baseball. Il disait que les gens le critiquaient parce qu'il aurait eu un bras lanceur faible, et il disait « Chacun a ses faiblesses. Si vous regardez attentivement Jésus-Christ, vous parviendrez même à voir qu'il avait ses défauts. » Eh bien, c'était une très mauvaise analogie, car lorsqu'on examine Jésus-Christ de très près, on découvre ce que Pilate a découvert. Je ne trouve en lui quoi ? Aucune faute. Et c'est la raison pour laquelle il est utilisé dans Hébreux 13, au verset 8, comme modèle parfait à suivre pour la vie. Il n'est pas dit qu'il agit toujours de la même manière, parce que ce n'est pas possible de soutenir cela par l'Écriture. Ce qui fait donc qu'ils n'ont fondamentalement aucun verset biblique à avancer pour appuyer l'idée selon laquelle ce que les disciples ont vécu devrait constituer la norme pour tout chrétien. David Duplessis dit, et je cite, « Le Nouveau Testament ne constitue pas le récit de quelque chose qui se serait produit au cours d'une génération, mais c'est le plan de ce qui devrait se passer dans chaque génération jusqu'à ce que Jésus revienne. » Fin de citation. Bien entendu, il est certainement la figure du mouvement charismatique la mieux connue dans le monde entier. Et il affirme que ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament devrait se produire en tout temps. Tout ce qui, dans le Nouveau Testament, était miraculeux et remarquable est caractérisé par la manifestation surnaturelle et supposé constituer un standard pour toute l'ère de l'Église. Brunner dit, et Brunner n'est pas un charismatique, dans sa théorie du Saint-Esprit, il dit, je cite, « Les pentecôtistes se réfèrent souvent au mouvement » comme étant une reproduction fidèle du mouvement apostolique du premier siècle. Fin de citation. Et cela est vrai. Ils ont le sentiment que Dieu n'a pas changé, mais que c'est plutôt l'Église qui s'est organisée, qui s'est ritualisée, a développé une orientation doctrinale. Et qu'en le faisant, elle a perdu et abandonné la puissance du Saint-Esprit, qui a finalement, au bout de 2000 ans, été récupérée dans le mouvement pentecôtiste. Et ils veulent que nous acceptions l'idée qu'aujourd'hui, Dieu fait les choses qu'il a faites au premier siècle, les révélations, les visions, les signes, les guérisons, les œuvres puissantes, les langues, les miracles. Tout ceci parce que la puissance du premier siècle constitue toujours le mode standard d'opération du Saint-Esprit. Telle est leur revendication. En fait, ils parlent de la restauration de la puissance du Saint-Esprit du Nouveau Testament. Et si nous n'acceptons pas cela, c'est que nous refusons la réalité comme l'Église l'a fait pendant des siècles, disent-ils. Et nous faisons partie du problème, et non de la solution. Maintenant, cette revendication particulière sur leur passé, qui constitue un thème majeur et un argument important dans le mouvement, est, à mon idée, le troisième problème fondamental, la troisième erreur cruciale que nous devons porter à la lumière des Écritures. À présent, qu'est-ce qui ne va pas avec le mouvement charismatique? Premièrement, nous avons vu la question de la révélation. Le problème est qu'ils ont une révélation qui se poursuit, et qu'il n'y a pas de fin à la Bible. Deuxièmement, nous avons vu le problème de l'interprétation, à savoir qu'ils interprètent la parole de Dieu de manière erronée. Ils évoluent comme l'a fait le grand théologien Friedrich Schleiermacher, qui était un libéral. Ils passent de l'expérience à l'écriture pour amener l'écriture à valider leur expérience, et c'est ainsi qu'ils font une mauvaise interprétation. À présent arrive la troisième erreur majeure du mouvement, c'est la question de la singularité apostolique. Ils ne conçoivent pas le caractère unique de l'ère apostolique, l'ère de l'Église primitive. Ils veulent en faire une norme pour toute ère de l'Église et de l'expérience des apôtres, le standard pour l'expérience de chaque croyant dans l'histoire de l'Église. C'est donc ce dont nous allons parler ce matin. Ce sera cependant un tout petit peu académique ce matin. Vous devrez par conséquent vous accrocher. Ce n'est pas le genre de message qui donne la chair de poule spirituelle. Vous ne direz pas « Oh, j'ai tellement été béni aujourd'hui ». Nous allons agir sur votre cerveau aujourd'hui, et vous allez devoir réfléchir avec nous. À présent, la question que nous voulons traiter est celle-ci. L'ère apostolique, avec tous les éléments qui la composent, constitue-t-elle la norme pour chaque croyant? Est-ce l'expérience normative pour toutes les périodes de l'Église? Sommes-nous aujourd'hui supposés marcher sur l'eau? Sommes-nous aujourd'hui supposés nourrir 20 000 personnes par le miracle des 5 pains et des poissons? Sommes-nous supposés opérer aujourd'hui miracle après miracle de guérison de personnes? John MacArthur est-il supposé descendre la rue, tandis que les gens qui viennent au contact de son ombre sont guéris de toutes leurs maladies? Le personnel de cette église ou le pasteur de quelque église que ce soit est-il supposé d'envoyer des mouchoirs grâce auxquels des gens pourraient recevoir des guérisons? Dieu fait-il encore toutes ces choses qu'il a faites jadis? Sommes-nous supposés recevoir des révélations et des visions, et des voix et des langues, et des miracles, et ainsi de suite? Eh bien, telle est la question. Examinons la réponse. Le mouvement charismatique dit absolument oui. Aujourd'hui, nous devons tout voir. Malheureusement, lorsque cela est examiné, une telle revendication ne peut pas du tout se vérifier. Ils n'expérimentent pas ce genre de choses, et cependant, ils s'accrochent désespérément au fait que si. Parlons à présent de plusieurs choses, et restez avec moi tandis que nous tentons de répondre à cette question essentielle. Commençons d'une manière générale à supposer que le critère majeur avec lequel il traite dans l'ère apostolique soit l'élément miraculeux, et je pense qu'il s'agit d'une bonne hypothèse. Ils disent que l'élément miraculeux de l'ère apostolique est supposé constituer la norme pour chaque époque. Eh bien, examinons la Bible, et découvrons pourquoi et comment Dieu s'est servi des miracles. Dans la Bible, les miracles ne se sont produits qu'à 3 périodes majeures. L'époque de Moïse et Josué, l'époque d'Élie et d'Élisée, et au temps du Christ et des apôtres. Et chacune de ces époques représente moins de 100 ans dans toute l'histoire humaine. C'est pendant ces 3 périodes brèves, et seulement celles-là, que les miracles se sont proliférés. Que les miracles ont constitué la norme, que les miracles ont abondé. Maintenant, il faut dire que Dieu est capable d'intervenir de manière surnaturelle dans le cours des événements humains, chaque fois qu'il le souhaite. Et nous ne lui imposons pas des limites, loin de là. Nous disons tout simplement qu'il a choisi de s'imposer des limites, dans une grande mesure, à ces 3 périodes de temps. Et il y a 4 éléments dans tous les miracles qui nous aident à comprendre pourquoi. 4 objectifs pour les miracles, et ils sont entrelacés. Et vous apprécierez leur utilité quand nous aurons terminé de les voir tous les 4. Premièrement, lorsqu'il y a une ère du miraculeux, qu'il s'agisse de l'ère mosaïque, de l'ère prophétique d'Élie ou d'Élisée, ou encore de l'ère apostolique du Nouveau Testament, la raison première est l'introduction d'une nouvelle ère de révélation. Dieu présente une nouvelle ère de révélation. Dieu annonce sa révélation. Les miracles qui, par exemple, ont entouré la vie de Moïse, étaient destinés à confirmer le fait que Dieu parlait. C'était au temps de Moïse, par exemple, que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits. Rien n'avait été écrit avant cette époque, le canon inclus. Peut-être le livre de Job lui est-il antérieur. Nous ne le savons pas. Mais Moïse écrit essentiellement la première plus grande composite de l'Écriture. C'était à l'époque de Moïse que Dieu a introduit la loi, les 10 commandements, la nouvelle nation d'Israël, le tabernacle, les sacrifices, le sacerdoce et toute la révélation mosaïque. Dieu accordait la révélation. Pour pouvoir répondre à cette révélation avec un argument convaincant, Dieu l'a accompagné de miracles. Deuxièmement, il y a l'époque d'Élie et d'Élisée. Et voici un réveil de l'office prophétique. Sous Moïse, Dieu accorde la loi. Et à travers Élie et Élisée arrive la voix des prophètes. Et l'Ancien Testament est constitué de la loi et les prophètes. Ainsi donc, lorsque Dieu apporte la révélation à travers ses prophètes, il accompagne cela avec un certain nombre de choses miraculeuses, ce qui fait qu'aussi bien la loi que les prophètes sont confirmés par les miracles. Et finalement, après avoir résumé l'Ancien Testament, Dieu a donné le Nouveau Testament, la globalité dans une seule période de temps, qui part de l'époque du Christ, soit 30 à 96, lorsque le dernier livre a été rédigé, cette brève période en ces années. Tout le Nouveau Testament est donné, et il est également accompagné de prodiges et de miracles. Donc 3 grandes périodes de miracles, 3 grandes périodes d'histoire révélatrices, au cours desquelles Dieu accorde une nouvelle révélation. Les miracles ont été utilisés pour introduire une nouvelle ère de révélation. Deuxièmement, pour authentifier des messagers de cette révélation. Si Dieu accorde une nouvelle révélation, Satan va brouiller la question en introduisant d'autres personnes qui vont dire d'autres choses, et Dieu gère donc cela, en s'assurant d'identifier clairement ses orateurs par les capacités extraordinaires qu'il leur accorde. C'est ainsi que Moïse et Josué, Élie et Élisée, Christ et les apôtres avaient tous la capacité d'opérer certains signes et prodiges, et ses signes prodiges visaient à convaincre tous ceux qui les écoutaient qu'ils étaient effectivement des messagers de la nouvelle ère. Parlons à présent Exode chapitre 4, et j'aimerais vous donner une illustration. Nous regarderons environ 9 versets, parce que je pense que cela nous aidera à voir ce que je suis en train de dire. Dieu authentifie les messagers de la nouvelle révélation. Verset 1 d'Exode 4. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Il dit, à présent, je vais me rendre auprès des gens d'Israël, et je vais leur dire que j'ai vu Dieu dans un buisson ardent. Je vais leur dire que Dieu m'a chargé de les sortir d'Égypte, et ils vont me dire, « Qui es-tu, camarade ? Eh bien, pourquoi devrions-nous te croire ?» Ils vont me dire, « Eh, nous ne sommes pas au courant. Comment savoir si Dieu t'est vraiment apparu, d'accord ?» L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, et saisis-le par la queue. » Il étendit sa main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Autrement dit, Moïse, tu seras capable d'opérer des merveilles pour que les gens sachent que tu es mon messager pour apporter ma parole. Très bien, verset 6. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra quoi ? Du sang. Et Dieu a dû en arriver là, en Égypte, n'est-ce pas ? Mais voyez-vous, il était en train d'accorder à Moïse la capacité de s'authentifier, en tant que messager de la nouvelle révélation. » Maintenant, quand vous arrivez à Élie et Élisée, vous voyez la même chose, et je vais juste vous donner une illustration, bien qu'il puisse y en avoir plusieurs autres. 1 Roi 17 au verset 24. Dans 1 Roi 17 au verset 24, Élie vient juste d'opérer la guérison d'un fils décédé, le fils de la veuve, et il a fait descendre le petit gars du haut de l'étage et le rend à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. » Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Vous voyez à présent, Dieu est en train d'authentifier l'office prophétique d'Élie en tant que celui qui annonce sa nouvelle révélation. Quand vous parvenez au Nouveau Testament, c'est la même chose. Jean 10 au verset 25. Le premier à porter la nouvelle révélation, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jean 10 verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. En d'autres termes, Jésus est authentifié par les signes. Et lorsque Pierre se lève le jour de la Pentecôte, en Actes 2, verset 22, il dit qu'il s'agit de Jésus de Nazareth qui a été confirmé ou authentifié par le Père à travers les signes et les prodiges qu'il a opérés. Et il en a été de même des apôtres. Dans Actes 14, verset 3, il est dit que le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce. Et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Ainsi donc, Dieu a accrédité les messagers de la nouvelle révélation de l'époque mosaïque, les messagers de la révélation au temps d'Élie et d'Élisée, les messagers de la révélation à l'époque du Nouveau Testament. Les miracles ont ainsi pour objectif de déclarer que la nouvelle révélation est en train d'être accordée et d'identifier qui sont les messagers de cette nouvelle révélation. Troisièmement, les miracles visent à accréditer le message qui est donné, afin de montrer qu'il s'agit d'une période de la nouvelle révélation. Voici le message. Trois périodes de la grande révélation dans le passé. Le temps de Moïse et Josué, le temps des prophètes, et le Nouveau Testament. Et à chaque fois, le message était validé par les miracles, pour prouver qu'il venait bien de Dieu. Voici les messagers de Dieu, et c'est effectivement Dieu qui parle. Ensuite vient le quatrième élément. C'est que les miracles, en tant qu'objectif, visait à attirer l'attention des auditeurs, à écouter la nouvelle révélation. La nouvelle révélation est accordée. Voici les messagers. Voici le message. Voici la réaction. Voici ce que vous êtes supposé faire. Par exemple, les miracles d'Égypte étaient accomplis par Moïse et destinés à instruire deux groupes d'individus, deux groupes de personnes. Prenez votre Bible et regardez à Exode chapitre 6. Exode chapitre 6, verset 6. À présent, dans Exode 7, Dieu a lancé les plaies, les merveilleux miracles de la nature. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel », Exode 6, verset 6. Maintenant, vous pourriez le leur dire, et ils pourraient répondre, « Oui, ça fait 400 ans que nous entendons cela. Mais que faisons-nous encore en Égypte? C'est un beau message, mais notre Dieu semble quelque peu impuissant, et les dieux égyptiens sont un peu plus forts, puisque nous n'avons apparemment aucun moyen de sortir d'ici. Vous dites donc, « Je suis l'Éternel ». Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. En d'autres termes, au verset 6, il dit, « Dis-leur que je vais le faire. » Et au verset 7, « Dis-leur qu'ils le sauront dans très peu de temps. Pourquoi ? Parce que les miracles accompagnaient ce que Dieu faisait et les convainquaient. Ils n'ont pas vraiment eu de questions lorsqu'ils ont commencé à voir ce que Dieu faisait. Les miracles étaient donc destinés à interpeller les enfants d'Israël, appeler les croyants à croire la vérité, étant donné qu'ils avaient eux aussi des doutes. Cependant, le second groupe, Exode 7, verset 17, et ici Moïse s'adresse à Pharaon, et il est dit, « Ainsi parle l'Éternel. » À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Autrement dit, Pharaon, tu vas savoir, je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Regardez à présent le second groupe, Pharaon et les Égyptiens, les païens. Exode 8, verset 15. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Que se passe-t-il ensuite? Les miracles annoncent un temps de nouvelles révélations pour accréditer le messager, authentifier le message et enseigner, aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants, qu'il s'agit bien de la parole de Dieu. Les miracles d'Élie et d'Élisée ont fait de même. À l'intention d'une femme croyante comme la veuve de 1 roi 17, 24, le miracle s'est avéré convaincant. Dans 1 roi 18, verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et ensuite, vous savez ce que Dieu a fait. Dieu a fait descendre le feu du ciel, qui a consumé les pierres et l'autel et l'eau, et a vaincu les prêtres de Baal, n'est-ce pas ? Il y a donc ici, dans le cas de Moïse, des miracles pour prouver aux croyants, et des miracles pour prouver aux non-croyants que Dieu parle. Au temps d'Élie, nous voyons des miracles à l'intention des croyants, comme la veuve, des miracles destinés à prouver aux non-croyants que Dieu parle. Quand on arrive au Nouveau Testament, c'est exactement la même chose. Dans Jean 20, verset 30, il est dit, « Jésus a encore fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. C'est important, et ils ne sont pas écrits dans le livre. Écoutez à présent, Jésus a fait des miracles en présence de ses disciples. En d'autres termes, il voulait que les croyants sachent qu'il s'agissait d'une ère de révélation, qu'il était en train de parler. » Regardez maintenant verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Ils sont également enregistrés afin que les non-croyants puissent croire. Vous voyez ? Ainsi donc, dans tous les cas, les miracles de Moïse, premièrement, visaient à convaincre les enfants d'Israël que leur Dieu était plus puissant que les dieux d'Égypte. Deuxièmement, ils étaient destinés à convaincre le Pharaon et les Égyptiens de la futilité de l'adoration de leur Dieu. En fait, si vous étudiez Exode 7 au verset 12, vous remarquerez quelque chose de très intéressant, à savoir que chacune des plaies visait directement un dieu égyptien spécifique pour le contrer. Le dieu du Nil est détruit lorsque l'eau de la rivière est changée en sang. Le dieu du soleil est tout aussi attaqué. Et ainsi de suite jusqu'au dernier. Ils adoraient les grenouilles en Égypte. Et Dieu règle la question de ce Dieu en provoquant une prolifération des grenouilles. Chaque plaie était précisément dirigée contre l'un des dieux égyptiens. Il montre donc aux Israélites que leur Dieu est supérieur, ainsi qu'aux païens. À l'époque d'Élie et d'Élisée, il s'est passé exactement la même chose, convainquant le peuple de Dieu de revenir et les païens d'écouter la nouvelle révélation de Dieu. au temps du Christ et des apôtres, c'était pour confirmer la foi de ceux qui croient déjà et ôter toute excuse à ceux qui manquent de croire. Juste quelques autres passages sur ce dernier point pour compléter notre réflexion. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Dieu leur a donné la capacité d'opérer des signes et des prodiges. Et les gens écoutaient, et ils croyaient, et des gens étaient ajoutés à l'Église. Bien-aimés, telles sont les seules instances de l'histoire du plan rédempteur de Dieu, où les miracles ont constitué une norme équitable. Et une fois que la loi et les prophètes et le Nouveau Testament ont été complétés, la révélation de Dieu est parvenue à son terme. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu a parlé à deux reprises, la loi et les prophètes, et son Fils, le Nouveau Testament. Ces deux choses viennent ensemble pour former la parole de Dieu. Et croyez-moi, par tous ces miracles, Dieu a authentifié ce livre, n'est-ce pas? Et il n'a nullement besoin de l'authentifier à nouveau. Maintenant, si vous comprenez que c'est cela l'objectif des miracles, alors vous vous rendez compte qu'il n'y a pas aujourd'hui de raison d'avoir une prolifération de miracles tels que ces gens disent que chacun reçoit son miracle, comme le livre que je crois, Pat Boone, a écrit « Un miracle chaque jour éloigne le diable », où il se produit miracle après miracle, après miracle, quand on comprend que Dieu s'en est servi à trois reprises dans l'histoire, des périodes qui ont duré moins de 100 ans, pour authentifier une nouvelle révélation. Au moins les charismatiques aujourd'hui sont cohérents. S'ils ouvrent la porte au miracle, alors ils font également de la place pour une nouvelle révélation. Mais le problème est le suivant. Les deux sont faux. Nous avons tenté d'identifier l'erreur qui consiste à accommoder une nouvelle révélation au cours des derniers mois d'études. À quoi est-ce que Dieu nous appelle dans cette ère? Quel est l'ordre à suivre dans cette ère? Regardez à Jean 20, verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Autrement dit, Jésus dit, « Les choses ne se passeront plus de cette manière, Thomas. Ça va être différent. Il y aura une autre manière. Il ne sera plus désormais question de ceux qui voient et qui croient. Il s'agira plutôt de ceux qui n'auront pas vu. » Et Paul le formule de cette manière dans 2 Corinthiens 5 au verset 7. Il a dit, « Nous marchons par quoi ? La foi et non par la vue. » Et c'est là l'ordre du nouveau jour. Et Pierre dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu. » Nous ne courons pas, ça et là, aujourd'hui, en quête de miracles, étant donné que les miracles avaient un unique objectif, authentifier la révélation, ses messagers, son message, et instruire ceux qui écoutaient pour qu'ils puissent répondre. Et une nouvelle révélation n'est pas en train d'être donnée, et nous ne sommes pas appelés à rechercher des miracles pour certifier une parole qui est déjà accréditée. Nous sommes appelés à croire par la foi qu'il s'agit de la parole de Dieu et d'y répondre. Laissez-moi à présent porter une étape plus loin et développer le caractère unique de l'ère apostolique en parlant des apôtres eux-mêmes. Les écrivains du Nouveau Testament, comme nous l'avons vu lors de nos dernières études, étaient des apôtres et leurs proches collaborateurs. Ils étaient complètement uniques. Leur ère était unique parce qu'il n'y a qu'un Nouveau Testament et il n'a été écrit qu'une fois et il n'y a rien à y ajouter. Apocalypse 22, verset 18 établit clairement qu'il ne faut rien ajouter à la Bible. Il n'y a aucune indication dans l'Écriture que les choses qui se sont produites à l'époque doivent se passer aujourd'hui, que les choses qui sont arrivées à ces auteurs de la Bible doivent nous arriver. Il s'agissait d'une époque très unique. En fait, la Bible indique plutôt le contraire. Saviez-vous que dans tout le Nouveau Testament, Dieu donne seulement 4 commandements en lien avec le Saint-Esprit, c'est tout. N'éteignez pas, n'attristez pas, marchez par, et priez par le Saint-Esprit, et point final. Et une autre allusion. Soyez constamment remplis. Il ne dit rien du tout sur la recherche de miracles, ni sur la quête d'une quelconque autre manifestation de l'Esprit. N'attristez pas, n'éteignez pas, marchez, et priez par le Saint-Esprit, qui veut dire prier sans cesse, avec sa volonté. Et pourtant, les charismatiques croient que les éléments spectaculaires, miraculeux, sont donnés pour l'édification et qu'ils doivent se poursuivre encore aujourd'hui. Et clairement, la parole de Dieu dit Prenez par exemple les langues, 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ils n'ont jamais été conçus pour l'édification. Nous verrons cela lorsque nous arriverons au 14e chapitre. Tous ces miracles, y compris les langues et tout le reste, étaient des signes qui visaient à authentifier une ère de nouvelles révélations. Lorsque la révélation a cessé, les signes aussi ont cessé. B.B. Warfield, un grand théologien de la Réforme d'il y a 75 ans, a écrit, et sa parole est fiable car il était un savant. En fait, au moment où il écrit ceci, personne n'a discuté avec lui, parce que c'était avant le pentecôtisme moderne. Voici ce qu'il a dit. Citation. Les miracles n'apparaissent pas sur les pages de l'Écriture de manière hasardeuse, indifféremment. Ici, là et ailleurs, sans raison valable. Ils appartiennent à des périodes de révélation et n'apparaissent que lorsque Dieu parle à son peuple, à travers des messagers accrédités, qui déclarent ses desseins gracieux. Leur présence abondante dans l'Église apostolique constitue la marque de la richesse de l'ère apostolique en révélation. Et lorsque cette période de révélation s'est clôturée, la période d'accomplissement des miracles était passée, comme si cela allait de soi. Fin de citation. Il a raison. Joël Gerlach, qui est luthérien, écrivait dans un article du trimestriel luthérien, The Wisconsin, en octobre 1973, un article intitulé « Glossolalie ». Il a dit « La glossolalie a d'abord été accordée dans un but évident, authentifier et donner de la substance à certaines facettes de la vérité divine. Cet objectif est toujours déformé par ceux qui font passer l'emphase du signe objectif à l'expérience subjective. » Fin de citation. Les dons en guise de signe, bien-aimés, ont été accordés pour authentifier une nouvelle révélation. Retournons à Marc 16 au verset 20. Nous y avons passé un moment la semaine dernière, en parlant des serpents et du poison. Mais retournons-y, et en supposant que nous laissions Marc 16 verset 9 à 20, et disions qu'ils font partie de la parole de Dieu qui fait autorité. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose d'intéressant ici. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11. Nous savons donc à qui il s'adresse. Il a parlé aux 11, moins Judas, bien entendu. Et le reste de ses paroles leur est adressé, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, leur se rapporte aux 11, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent. Maintenant observez, prêchez partout, le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Autrement dit, c'est aussi clair que cela puisse être que les dons des miracles étaient accordés aux 11 pour confirmer leur proclamation de la parole de Dieu. C'était leur raison d'être. Regardez à Acte 2, verset 22. Dans Acte 2, verset 22, il est dit « Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Je vous ai cité ce passage plus tôt. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé. Et de quelle manière est-ce que Dieu a marqué son approbation sur le Christ ? Par les miracles, les prodiges et les signes. Dieu était en train d'accréditer Christ. Dans Marc 16, Dieu accrédite les apôtres. À présent, j'aimerais que vous regardiez Acte 7 et le message d'Étienne, et je vous y montrerai une déclaration intéressante. Dans Acte 7, au verset 36, au sujet de Moïse, Étienne dit « C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert, pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. » Remarquez à présent, Moïse et ses signes sont rattachés aux oracles vivants. Dieu accrédite son messager lorsqu'il donne une nouvelle révélation, qu'il s'agisse de Moïse ou des prophètes, ou du Christ. Ou des apôtres. C'est une chose très essentielle, braves gens, à laquelle vous devez vous accrocher. Les miracles ne sont pas quelque chose qui est juste éparpillé à travers toute l'histoire de l'œuvre de Dieu. Ils sont destinés à confirmer ces messagers de la révélation. Allez avec moi à Hébreux 2, versets 3 et 4, que nous avons examiné pour plusieurs raisons, mais que nous devons à nouveau approcher, à cause de son caractère essentiel, pour ce que nous sommes en train de dire. Hébreux 2, verset 3 déclare « Comment échapperons-nous ? » L'auteur s'adresse aux Juifs. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? » Il s'agit d'une grande vérité. « Comment échapperez-vous si vous négligez le salut ? » Vous ne pourrez pas. Il parle ensuite du salut. qui, annoncé d'abord par le Seigneur, vous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. À présent, le Seigneur et les apôtres. Les apôtres sont ceux qui ont travaillé en collaboration avec Christ. Et voici donc une seconde génération de congrégations juives qui affirment avoir reçu l'évangile de la première génération. Dieu leur a rendu témoignage par des signes et des prodiges, divers miracles et les dons du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de nous rendre témoignage. Le mot « appuyant » est au passé, suite à une erreur qui s'est produite par le passé. Le participe devrait identifier simultanément le verbe principal. Il est lui aussi au passé. Cela a été confirmé à leur intention, et par conséquent à notre endroit par des miracles, et des dons et des signes qui se sont manifestés. Ainsi donc, il y a une parole biblique claire selon laquelle les miracles et les prodiges, et les dons, des signes confirmés les dons, qui ont été accordés à la première génération d'apôtres, qui étaient des messagers de la nouvelle révélation, tout comme cela s'est passé dans le cas d'Élie et Élisée et Moïse. Ainsi Warfield dit dans son livre, « Les miracles contrefaits, comme Abraham Kuyper l'exprime de manière figurative. Ce n'est pas le style de Dieu de communiquer à chaque individu une réserve distincte de connaissances divines qui lui soit propre, afin de satisfaire ses besoins particuliers. Il a plutôt répandu un conseil commun pour tous et invite tout le monde à prendre part à la richesse de la grande fête. Il a accordé au monde une révélation organiquement complète qui est adaptée à tous, suffisante pour tous, et qui a pourvu aux besoins de tous. Et à partir de cette unique révélation complète, il exige que chacun extrait la totalité de sa ration spirituelle. C'est ainsi donc qu'on ne peut pas s'attendre à ce que la puissance d'opérer des miracles, qui n'est rien de plus qu'une satisfaction de la puissance de révélation de Dieu, continue après que la révélation, qu'elle était supposée accompagner, se soit terminée. » Fin de citation. Tout cela pour dire, vous ne pouvez pas avoir des miracles si vous n'avez pas de révélation. Les charismatiques disent que Dieu désire parcourir les lieux et donner un miracle à chacun, et vous les entendez dire, « Dieu a un miracle spécial pour vous. » Jack Mennett a fait quelques recherches sur la question au cours des deux dernières semaines. Il a pris absolument chaque miracle des évangiles et sa conclusion, en prenant chacun d'eux et en traçant un diagramme et un graphique. Aucun d'eux n'a jamais été opéré en privé, jamais. Dieu n'opère jamais de miracles privés. Ils sont inutiles. Ils sont seulement destinés à authentifier une nouvelle révélation. Et une nouvelle révélation ne constitue jamais une affaire privée. Il faut cependant reconnaître qu'ils sont au moins cohérents dans leur erreur, en affirmant qu'il faut avoir une révélation pour pouvoir recevoir des miracles. Et si vous devez recevoir la révélation, il faut avoir des messagers de la révélation, que sont les apôtres. Ce qui fait que les charismatiques aujourd'hui croient en une nouvelle révélation, aux apôtres et aux miracles. En fait, l'un d'entre eux m'a même dit récemment que j'étais un apôtre. Et j'ai dit, qui, moi? J'ai dit, je n'en suis pas un. Mais il a dit, mais si, vous êtes un apôtre qui a été accordé à l'Église de cette ère. Pas moi, j'ai ma définition très clairement soulignée dans Éphésiens 4. Je suis un pasteur, enseignant, et également dans les épîtres pastorales, où il est dit que je suis un ancien, un évêque ou un presbytère, qui tous signifient la même chose, mais certainement pas un apôtre. Les apôtres étaient spéciaux et ont vécu à une époque spéciale. Les références, l'autorité des premiers prédicateurs du christianisme, ne nécessitent pas une répétition continue. Une ère de miracles pleinement authentifiée a suffi à établir l'origine divine du message, et le message est rassemblé. Et le message est suffisant pour qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit ne dise pas « Recherchez des miracles ». Paul ne dit pas « Recherchez la manifestation de l'Esprit, recherchez les signes et les prodiges ». Il se contente de dire « Cherchez à marcher dedans, dans l'énergie de l'Esprit ». Et il établit un parallèle « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ». Paul le formule de cette manière, et je pense que c'est plus pertinent pour nous dans 2 Timothée 3, verset 15. Il rappelle à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, écoutez à présent, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De quoi avez-vous donc besoin pour être sage en vue du salut? L'écriture sainte. De quoi avez-vous besoin pour être parfait? De quoi avez-vous besoin pour accomplir toute bonne œuvre? les saintes Écritures. De quoi avez-vous donc besoin? L'Écriture sainte, c'est tout. » Dans Romains 15 et verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Si nous voulons de l'espoir, si nous voulons une ancre, si nous voulons quelque chose qui nous permettra de traverser le monde, ce n'est pas un miracle qu'il nous faut. C'est de l'Écriture que nous avons besoin, dans Apocalypse chapitre 1, et par ailleurs, l'Apocalypse est le livre qui est rempli de visions, de prodiges et de signes, et de tout. Ce serait l'endroit idéal pour l'auteur de dire « Maintenant, recherchez le même genre de choses que Jean a vu ici, mais regardez ce qui est dit. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Ils ne cherchent pas ces expériences. Ils se contentent de dire « Lisez, et apprenez, et obéissez. » Et dans Jacques chapitre 1, verset 25, la même emphase est faite. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est quoi la loi parfaite de la liberté? C'est la parole de Dieu. Et quiconque y plonge ses regards sera un homme parfait, et son activité sera bénie. Pas besoin d'un nombre infini de miracles d'authentification pour authentifier une écriture qui est déjà authentifiée. Nous n'avons pas besoin de plus de deux ou trois témoins pour confirmer quelque chose. Il nous faut simplement tester une fois, et une fois que la décision est prise, il s'agit de la parole de Dieu. Elle est prise, et il n'est plus nécessaire de se rendre au tribunal. Et si Dieu opérait des miracles aujourd'hui comme il le faisait à l'époque apostolique, c'est qu'il aurait soit le sentiment qu'il avait mal authentifié son écriture, ou alors qu'il serait en train de nous donner une nouvelle révélation. Et ni l'une ni l'autre n'est possible. La période de la nouvelle révélation et les apôtres sont connectés de manière inextricable. Regardez à 2 Corinthiens 12 pendant une minute, verset 11. « J'ai été insensé en me vantant ainsi. » Il dit « Mais vous m'y avez contraint. » En d'autres termes, Paul dit « Je dois continuer de défendre mon apostolat devant vous. Je dois continuer de vous dire que je suis un apôtre et vous le prouvez. » Et il dit « Car je n'étais en rien inférieur à ces super apôtres. » Écoutez. Je suis un apôtre en tout point, bien que je ne sois rien. Officiellement, je suis autant un apôtre que n'importe quel super apôtre. Et pour le prouver, il déclare « Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous, par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Écoutez à présent ceci. « Bien-aimé, aurait-il été possible que les choses soient plus claires que ceci ?» Il dit « Regardez. » Ces signes et ces prodiges et miracles constituent les marques d'un quoi? Apôtre. Observez à présent. Réfléchissez. Paul essaie de prouver qu'il est un apôtre. Il le fait en opérant des signes, des prodiges et des miracles. Si ce genre de choses avait été commune à tous les chrétiens, alors ce serait une manière stupide de démontrer qu'on est apôtre, n'est-ce pas? Cela ne prouverait absolument rien. Mais ces choses n'étaient vraies qu'avec eux. Voyez-vous, les apôtres avaient ce pouvoir miraculeux en tant que messagers de la parole de Dieu, de même que ceux qui travaillaient en étroite collaboration avec eux, qui étaient envoyés par eux, et ce n'est jamais allé au-delà. En fait, je vais vous dire une vérité déconcertante, quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Après la Pentecôte, aucun miracle. Après la naissance de l'Église, il n'y a plus jamais eu de miracle dans tout le Nouveau Testament, excepté en présence d'un apôtre, ou de quelqu'un qui avait été directement envoyé par un apôtre. C'est le cas d'Étienne et Philippe. Les deux avaient été désignés et mandatés en acte 6 par les apôtres. Ils ne figurent pas parmi tout le peuple. Absolument pas. Aucun miracle ne s'est jamais produit après la Pentecôte, sauf en présence d'un apôtre ou d'une personne directement mandatée par un apôtre, comme Philippe et Étienne. En fait, même le don miraculeux du Saint-Esprit en Samarie, à Corneille, en tant que païen, et des disciples de Jean-Baptiste en acte 19. Aucune de ces choses miraculeuses, les langues, n'aurait jamais pu se produire jusqu'à ce que qui soit là, les apôtres, parce que ces choses leur étaient spécifiquement attachées. Elles constituaient les marques d'un apôtre. Maintenant, une personne charismatique dirait « Très bien, nous avons encore des apôtres aujourd'hui. Nous avons encore des apôtres. » Et ma réponse à cela est « Non, nous n'en avons pas. » Et je vais vous donner 6 raisons pour lesquelles nous n'en avons pas. 6 raisons rapides. Nous ne pouvons pas avoir des apôtres de nos jours pour 6 raisons. Premièrement, l'Église a été fondée sur eux. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Charles Smith, de Grace Seminary, dit qu'à son avis, la meilleure traduction du texte grec à cet endroit serait les prophètes apôtres, c'est-à-dire qu'ils ne sont en rien différents, mais qu'ils sont pareils, et que l'apôtre se réfère à l'office, tandis que le prophète se rapporte à la fonction, les prophètes apôtres. Mais que ce soit le cas ou non, ce qui importe, ici, c'est que les apôtres sont désignés dans ce passage comme étant la fondation de l'Église. Pas besoin d'être un génie pour savoir que dans une métaphore comme celle-là, lorsqu'on construit un bâtiment, on pose une fondation à la base, et c'est la dernière fois qu'on pose une fondation. On ne continue pas de poser des fondations à l'infini. Ils ont été la fondation. Deuxièmement, un apôtre devait être un témoin oculaire de quoi ? La résurrection. Acte 1, verset 22. Il devait être un témoin de la résurrection. Et lorsque Paul cherche à prouver son apostolat, dans 1 Corinthiens 9, verset 1, il dit « Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur ?» Et au chapitre 15, il déclare « Le Seigneur est apparu à tel et tel et à tel et à tel et à un tel, après eux tous. Il m'est aussi apparu à moi. J'ose dire aujourd'hui, il n'y a personne qui ait vu le Seigneur ressuscité. Mais je vais me dépêcher d'ajouter, les charismatiques vont également le revendiquer. Mais vous voyez, Pierre a dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, nous sommes dans l'ère de ceux qui n'ont pas vu. Il s'agit de l'ère de la foi, et non celle de la vue. Ainsi un apôtre était la fondation de l'Église et un témoin oculaire de la résurrection. Troisièmement, un apôtre était directement et verbalement choisi par Jésus-Christ. Dans Matthieu, chapitre 10, c'est très clair. Qui étaient les apôtres? Il n'est pas possible d'être plus clair. Il a appelé 12 disciples. Il leur a donné le pouvoir et les noms des 12 sont là. Il les a ensuite nommés. C'est la toute première fois qu'ils sont désignés apôtres. Il dit, venez là tous les 12. Vous êtes maintenant, bang, les apôtres. Et il donne la liste de leurs noms. Dans Luc 6, verset 13, il est dit, 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Ils étaient ceux qui avaient été spécifiquement choisis par Christ. Vous pouvez évidemment ajouter au rang l'apôtre Paul, et peut-être Matthias des Actes, mais il fallait qu'ils soient spécifiquement choisis par Christ. Ils étaient ses agents agréés. Le terme hébreu que Jésus aurait pu employer lorsqu'il a dit apôtre, s'il parlait en hébreu plutôt qu'en araméen, et nous ne savons pas dans laquelle des langues il a parlé. Mais s'il s'est exprimé en hébreu, il aurait dit « sheliach ». Et le terme hébreu, « sheliach », au dire des rabbins, le sheliach est un homme comme l'homme lui-même. Il est le représentant qui se tient avec toute l'autorité qu'il faut pour agir en faveur d'un homme. En termes légaux, on appellerait cela un mandataire. Ils sont les mandataires de Jésus, désignés par lui, des agents spéciaux pour qu'ils puissent dire « au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche ». Ils étaient les tout premiers agents agréés. Ils étaient les premiers agents de la révélation. Ils étaient les apôtres du Seigneur. Oui, dans le Nouveau Testament, d'autres sont appelés apôtres, mais si vous examinez 2 Corinthiens 8, verset 23, ils sont appelés apôtres de l'Église. C'est une chose d'être appelé apôtre du Seigneur envoyé directement par lui, c'en est une autre que d'être un apôtre de l'Église, un envoyé. Et par ailleurs, je me dépêche d'ajouter. Il n'a jamais été enregistré de miracles ayant été accompli par les apôtres de l'Église. Ainsi donc, les 12 plus Paul ont une mission non transférable, d'enseigner la doctrine révélatrice et fonder l'Église. Et lorsqu'il est question de l'avenir de l'Église et des pastorales et de l'organisation de l'Église, on parlera des évêques, des presbytères, des anciens, des pasteurs, des diacres et diaconesses. Mais on ne parle jamais des apôtres. Ainsi, les trois premières raisons pour lesquelles il ne peut pas y avoir d'apôtres aujourd'hui. Premièrement, ils constituaient la fondation de l'Église, et elle a déjà été posée. Deuxièmement, ils étaient principalement des témoins de la résurrection. Et troisièmement, ils étaient les agents agréés du Christ. Quatrièmement, et nous avons vu ceci, ce qui fait que je vais me contenter de le mentionner, ils étaient authentifiés par des signes miraculeux. C'est stupide de me dire que je suis un apôtre de l'Église. Les gens ne sont pas guéris en étant couverts par mon ombre. Non, ce n'est pas le cas. Ils ont seulement l'avantage de ne pas avoir le soleil dans les yeux. Je ne possède pas les marques d'un apôtre. Cinquièmement, une cinquième chose qui les met à part et en fait des personnes uniques, c'est qu'ils avaient une autorité absolue. Ils possédaient une autorité absolue. Ils n'étaient même pas comme les prophètes. Vous vous souvenez-vous, lorsqu'un prophète de l'ère du Nouveau Testament a parlé, dans 1 Corinthiens 14, il est dit « Lorsque les prophètes parlent, et bien que l'esprit du prophète soit soumis au prophète, vous savez, en d'autres termes, vous autres devez juger au sujet de ces prophètes. Cependant, il n'y avait aucune discussion lorsqu'un apôtre parlait. Ils étaient des agents de la révélation de Dieu. Et Jude 17 dit « Souvenez-vous de ce qui a été annoncé par les apôtres. » Et Paul déclare « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » 1 Corinthiens 14, verset 37. Ils avaient une autorité particulière. Et sixièmement, et ceci constitue pour moi un coup de grâce, ils ont à jamais une place unique. Vous dites, que veux-tu dire par là? Je vais vous montrer. Dans le ciel de la Nouvelle Jérusalem, Jean, au chapitre 21 d'Apocalypse, est en train de regarder le ciel. Regardez ce qu'il voit. La muraille de la ville, cette fantastique muraille de la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste, reposait sur 12 fondements qui portaient le nom des « quoi ». 12 apôtres. Pour l'éternité, ils sont uniques. Ils resteront à jamais uniques.
Ils sont intransférables,
non reproductibles. La révélation est terminée. Les apôtres ont cessé d'exister. Les miracles ont cessé jusqu'à la nouvelle ère, où Dieu parlera encore dans son royaume. Et l'histoire du second centenaire de l'Église confirme cela. Alva McLean déclare « Lorsque l'Église apparaît au second centenaire, la situation des miracles a tellement changé qu'on a l'impression d'être dans un autre monde. » Fin de citation. Samuel Green, dans le manuel de l'histoire de l'Église, dit, et ceci a été publié en 1913 à Londres, il déclare, « Lorsque nous émergeons du second siècle, nous nous retrouvons, en grande partie, dans un monde changé. L'autorité apostolique n'existe plus au sein de la communauté chrétienne. Les miracles apostoliques sont révolus. Nous ne pouvons pas douter qu'il y ait eu un dessein divin à marquer l'ère d'inspiration et de miracles de cette manière, par une frontière si large et définie des temps qui ont suivi. Cela a tout simplement cessé. L'histoire le dit. L'exégèse l'indique. La théologie le dit. Et vous pouvez même le voir en étudiant le livre des Actes. Dans Actes 5, il est dit « Et tous étaient guéris par les apôtres. » 25 ans plus tard, le plus grand de tous les apôtres est incapable d'être guéri d'une maladie. Et tandis que nous approchons la fin de sa vie, il demande à Timothée de faire usage d'un peu de vin pour ses fréquentes maladies. Et plus tard encore, à la fin de sa vie, il laisse un frère bien-aimé malade, à Milétus. Quelque chose avait changé. De tous étaient guéris, un tout un paquet de personnes malades à la fin du livre des Actes. Dans les premiers chapitres des Actes, les gens proclament Christ partout, et personne ne meurt. Et puis tout à coup, au chapitre 7, Étienne meurt. Et ensuite, au chapitre 12, Jacques meurt. Et quelque chose est en train de changer. Dans les premières pages du livre des Actes, Jérusalem est remplie de miracles. Et après le martyre d'Étienne, aucun miracle n'est plus rapporté, comme ayant lieu dans la ville de Jérusalem. Quelque chose est en train de changer. L'ère apostolique était merveilleusement unique et est passée. Et ce qui s'est produit à l'époque ne constitue pas un standard pour chaque chrétien. La norme pour chaque chrétien consiste à étudier la parole de Dieu, qui est capable de nous rendre sages et parfaits. La chose normale consiste à vivre par la foi et non par la vue. Cela ne me dérange pas vraiment lorsque Russell Bigster dit « Beaucoup de chrétiens ont une foi qui ne fait aucune place pour un Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'accommode d'un Dieu distant qui n'a rien fait d'important en 2000 ans. » Fin de citation. Eh bien, Russell, Dieu a fait des choses majeures en 2000 ans. Je regrette que tu ne les vois pas. Quand je regarde autour de moi aujourd'hui, je peux les voir en faire davantage encore. Qu'en est-il de vous? Jerry Horner, le professeur associé de la littérature biblique à l'université d'Oral Roberts, dit dans son témoignage « Qui voudrait d'un Dieu qui aurait perdu toute son énergie? Dieu aurait-il été capable de faire une chose dans une ère et non dans une autre? Dieu aurait-il perdu toute sa puissance ?» Fin de citation. Je m'adresse à toi, Jerry. Dieu n'a nullement perdu son pouvoir. N'enferme cependant pas Dieu dans ta boîte. La Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, « Il existe une promesse pour cette terre, et la voici. Il peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et ce ne sera pas ce qu'il a fait au cours de l'ère apostolique. Mais ce sera merveilleux, parce qu'il est Dieu, et ce qu'il fait est toujours merveilleux. Prions. Merci, Père, pour le temps que nous avons eu ce matin. Merci de parler avec ta parole. Seigneur, aide-nous à réaliser que nous devons nous contenter de tout ramener au texte pour voir si les choses sont effectivement ainsi. Aide nos frères et sœurs qui, peut-être, ont besoin de le faire davantage pour voir la vérité. Par-dessus tout, aide-nous à manifester de l'amour en partageant ces choses. Merci de nous rassembler ce matin pour ce moment qui nous enrichit tellement.
Nous te donnons la louange au nom de Jésus que nous aimons et servons. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.